Monsieur Tranois, je vous passe la parole et justement, il y a une bonne. Vous avez fait vous-même, Monsieur Mariton, une bonne liaison avec ce qui va suivre. Vous avez parlé de la fiscalité des hauts revenus et c'est vrai que le constat adressé par Thomas Piketty pose cette question de comment taxer les hauts revenus et les hauts patrimoines, puisque et une question qui agite beaucoup experts et politiques. Donc, Monsieur Tranois, vous avez regardé le sujet, notamment du côté des hauts salaires et donc des risques d'expatriation, puisqu'évidemment, chaque fois qu'on brandit un projet de fiscal d'augmentation des taxes, c'est la crainte qu'il y ait des délocalisations fiscales. Donc, est-ce que vous pouvez nous livrer les résultats de votre enquête sur ce sujet ?
Bien, merci. Avant de parler effectivement de ce sujet de l'expatriation possible des hauts revenus, je voudrais d'abord donc remercier l'Association française de sciences économiques de m'avoir invité et de dire que je vais m'exprimer ici à titre d'économiste et non à titre de citoyen. Je n'ai pas de livre à vendre, mais effectivement, je conseillerais d'acheter les deux livres qui nous sont proposés, et j'ai trouvé en particulier, même si je ne l'ai pas lu puisqu'il n'est pas encore sur les étalages, j'ai trouvé ce que j'en connais du travail de Thomas Piketty et de ses co-auteurs extrêmement stimulant. Alors il me semble que le débat, si on reste sur un plan, je dirais, purement économique, peut se structurer en deux étapes. D'une part, un constat, le constat d'avoir un impôt régressif s'agissant du dernier pourcent des plus riches, et d'autre part, des propositions de réforme, en tout cas une proposition de réforme centrale qui nous est présentée dans le graphique qui est sur le transparent. Alors, moi sur le constat, il me semble que, et je m'en suis ouvert avec Thomas Piketty, il me semble que entre économistes, ça nécessite, et peut-être plus largement, ça nécessite quand même un débat, le fait d'additionner toutes les sortes de prélèvements obligatoires, et en particulier d'additionner aux impôts toutes les sortes de cotisations sociales, parce qu'il y a un certain nombre de cotisations sociales qui ouvrent droit à des droits, ces droits étant, je dirais, proportionnels aux cotisations. Et en particulier, je citerai évidemment les cotisations retraite et les cotisations chômage. Alors je pense que le constat qualitatif d'une régressivité pour le dernier centile n'est pas affecté si on additionne à tous les impôts uniquement les cotisations sociales non contributives. Néanmoins, cette chute brutale serait quand même moins impressionnante. Alors ensuite, je dirais que, à rebours, je dirais même des deux autres interlocuteurs, Thomas, si tu peux passer le graphique où tu as la décomposition, j'étais quand même été assez agréablement surpris, malgré tout, du fait que si on en reste aux impôts, on a quand même quelque chose qui est plus progressif que je ne l'aurais pensé a priori. C'est-à-dire que si on m'avait demandé a priori de tracer cette courbe à vue de nez, j'aurais pas eu une idée d'une courbe en particulier sur les classes aisées qui soit aussi progressive. Alors, ce qui est parfaitement choquant, si j'en reste sur l'aspect impôt, hein, c'est-à-dire la courbe qui est à la fin de la lisière blanche et en petit, donc qui marque les cotisations sociales, on voit qu'il y a véritablement un plafonnement du taux, c'est-à-dire qu'après une belle montée de progressivité, il y a, non pas sur le dernier centile, mais je dirais, c'est quoi ? C'est le demi-dernier centile ?
Millime.
Millime, c'est le millime. Donc en fait, la partie plate correspond au millime, et effectivement, là on voit que, qu'est-ce qui est en cause ? C'est évidemment l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu qui devrait être progressif et qui doit être effectivement largement miné ici par toutes les utilisations des niches fiscales par les plus riches et qui détruit la progressivité. Alors, je dirais que ce n'est pas simplement qu'en France que se passe ce type de phénomène. Il m'était arrivé d'écouter un exposé aux journées d'économie, aux premières journées d'économie, par un économiste suisse qui disait que c'était exactement la même chose en Suisse où les derniers disons millimes, centimes millimes, profiter à plein de toutes les exonérations, de toute l'optimisation fiscale, tout simplement parce que ce n'est pas eux qui font leur déclaration d'impôt, etc. Et donc je pense qu'effectivement, ça pose un problème à la société française, cette baisse du rendement de l'IR en taux moyen pour et que ça interroge effectivement sur une réforme rigoureuse des niches fiscales. Alors, ensuite, si tu peux remettre, s'il te plaît, ton graphique précédent, il me semble aussi qu'un autre enseignement de ton étude, c'est de dire que, bon, on entend quelquefois dans le débat public qu'il faut faire payer les riches, d'accord ? À supposer que ça soit possible, qu'est-ce que ça rapporterait aux autres ? Et c'est intéressant parce que Thomas Piketty, là, nous offre un nouveau barème, le barème noir, qu'a comparé avec le barème actuel, où on voit que, finalement, si on prend beaucoup plus au dernier pourcent, eh bien, on gagne de 1, j'ai vérifié sur les données qu'il a données chiffrées, de 1 à 3% sur les autres, disons, sur les 50%, 60% plus pauvres.
Donc, c'est 97% plus pauvres.
Voilà.
Là, c'est parce que le choix est fait de donner à
tout le monde. Non, mais tout à fait. Non, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait s'imaginer, en écoutant certains discours, qu'il y a une cagnotte absolument énorme et qu'on va pouvoir révolutionner la fiscalité pour les autres. Et ce que je vois, c'est que bon, y a une réserve. À supposer que cette réserve existe, eh bien, si on distribue les bénéfices de cette réserve sur les autres, ça, évidemment, entraîne un avantage, mais pas un avantage bouleversant. Je dirais que c'est pas absolument considérable. Et je pense que c'est intéressant à mettre dans le débat public. Je dirais, pour faire le pont avec maintenant mes remarques, mes observations sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur sa réforme, je trouve intéressant, mais ça, je ne sais pas si ça traduit, je dirais, des poids sociaux particuliers, mais je trouve intéressant qu'il n'ait pas affecté, je dirais, aux gens les plus pauvres, disons, ce bénéfice, ce qui aurait traduit véritablement un objectif rawlsien. Et ça me permet de faire le pont avec donc mes observations sur, finalement, comment concevoir une réforme fiscale. Il me semble que sur la conception d'une réforme fiscale, lorsqu'on lit, je dirais, la troisième de couverture de votre livre, vous parlez donc de démocratie, donc c'est l'outil de transparence que vous mettez au bénéfice du public. Vous parlez d'équité, vous parlez de progressivité. Le mot d'efficacité n'apparaît pas, et je me suis demandé pourquoi, alors que l'économiste, depuis Merlis, depuis 40 ans, pense la fiscalité en s'appuyant sur des modèles de fiscalité optimale où il y a une fonction objective. C'est-à-dire qu'on se donne une fonction objective avec des poids sociaux où on se dit, finalement, est-ce que donner 1 euro à, je dirais, au premier décile, au deuxième décile, etc., est-ce que c'est complètement équivalent ? Je pense que cette vision de l'impôt optimal où on se dit quels sont les groupes sociaux en termes de revenus, parce qu'il peut y avoir après quelque chose d'horizontal, en disant est-ce que c'est les familles qui sont importantes, est-ce que c'est les personnes âgées, est-ce que c'est, etc. Eh bien, cette vision, où est-ce que je mets les poids sociaux, est une vision relativement saine et qui peut-être nous éloigne, je dirais, d'une perspective plus ancienne des finances publiques qui était où on restait uniquement sur des principes d'équité peut-être un peu vagues et sur le principe de progressivité. Donc, il me semble que l'acquis de la taxation optimale, c'est d'avoir réellement donc mis sur la table en disant quels sont les gens pour vous qui sont prioritaires, je pense qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait une réforme, même si l'homme politique pourra peut-être avoir un peu de mal, il me semble que l'économiste doit garder en tête cette possibilité, enfin, cette vision du monde de prioritarisation des différents groupes. Ensuite, la vision de l'impôt optimal, c'est de dire que, bien sûr, en général, on préfère toujours, donner une priorité plutôt aux groupes sociaux les plus défavorisés, mais que en voulant donner plus aux groupes favorisés, aux groupes défavorisés, on risque, en taxant, en introduisant une taxation qui sera de toute façon toujours généralement distorsive, eh bien, il va y avoir une perte d'efficacité qui va se traduire peut-être par une réduction de la taille du gâteau. Et, par exemple, si je m'intéresse uniquement au marché du travail, mais évidemment, ta réforme n'implique pas que le marché du travail, ça implique bien évidemment les choix d'épargne, en particulier les choix d'éducation, etc. Mais si on regarde le marché du travail, il y a plusieurs réactions de comportement qui peuvent être induites par les fiscalités, des réactions en termes de participation, est-ce que j'ai envie de travailler ou est-ce que je n'ai pas envie de travailler, ou est-ce que j'ai envie de travailler à plein temps ou à mi-temps simplement, est-ce que le nombre d'heures, est-ce que je veux travailler, est-ce que je accepte de faire des heures supplémentaires, est-ce que je vais déclarer tous mes impôts, est-ce qu'il y a une tentation de fraude fiscale, et puis la dernière c'est le vote avec les pieds.
Est-ce qu'on peut avancer, M. Tradois, notamment sur les hauts revenus
tout
pour ensuite garder du temps pour la salle?
J'y viens simplement pour dire que cette perspective, puisque je vais venir à la perspective de la taxation optimale, indique qu'il y a en général un conflit entre l'équité et l'efficacité et qu'il faut généralement accepter, si on veut plus d'équité, eh bien, il faut accepter une perte d'efficacité. Alors, s'agissant des points sensibles ici, les points sensibles c'est quoi? C'est la taxation du capital, la taxation des hauts revenus. En admettant que, et évidemment, je serais tout à fait prêt à l'admettre que ça serait un monde, disons, idéal, où la taxation du capital serait du même niveau que la taxation du travail, en termes, disons, de justice sociale. Il faut se demander si c'est ce que réclame également l'efficacité économique. Alors, l'économie, la théorie économique répond d'une manière différente si on raisonne en statique ou bien en dynamique. Si on raisonne en statique, on ne voit pas pourquoi, a priori, il faudrait traiter d'une façon différente le travail et le capital. Mais lorsqu'on raisonne en dynamique, il y a une raison relativement fondamentale qui fait que le coût d'introduire une taxe sur le capital est plus important peut-être que le coût d'introduire la même taxe sur le travail. C'est le fait que le capital peut se transmettre. Lorsque vous taxez le travail de Piketty donc pendant sa vie, ça va peut-être affecter son travail, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais enfin, ça peut peut-être l'affecter, mais ça ne va pas affecter le travail de ses enfants. C'est-à-dire, que pourquoi? Parce qu'avec le décès, s'évanouit, je dirais, votre capital humain. Alors que lorsqu'on taxe le capital, eh bien, d'une génération, comme le capital se transmet, eh bien, je dirais, la perte de croissance, eh bien, va se cumuler, et donc c'est, à mon avis, une des raisons essentielles qui fait qu'en dynamique, le capital pourrait devoir être moins taxé que le travail. Donc ça, c'est en économie fermée. Maintenant, en économie ouverte, et je vais venir sur mes transparents. Donc en économie ouverte, donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ce sujet d'économie ouverte n'est pas complètement déconnecté de ce qu'on sait sur les mouvements de mobilité. Le travail est évidemment mobile. Et le travail qualifié également. Alors, sur le travail qualifié, ce qu'il faut savoir, c'est que, au moins, ça c'est des données qui résultent du début des années 2000, 30 000 contribuables français quittaient la France chaque année, et ces contribuables, avant de partir, payaient un impôt trois fois plus élevé que les impôts moyens d'un Français. Donc c'était plutôt des gens qualifiés. Donc on peut dire que la situation de la France aujourd'hui est une situation où la France perd, je dirais, du travail qualifié, perd du capital, et il y a plutôt inversement, une arrivée de travail non qualifié. Est-ce que c'est très bon pour la croissance française future? Je ne sais pas. Alors, donc dans ce contexte, je voudrais proposer de réconcilier Piketty et Peggy. En fait, Peggy, c'est simplement un ancêtre de Sen, un ancêtre, de Rawls. Il a une phrase, Peggy était socialiste, et avant la guerre de 14, il a eu cette réflexion par rapport dans le débat politique. Évidemment, cette remarque ne vise pas du tout Thomas et ses co-auteurs, mais elle pourrait viser d'autres gens qui pourraient utiliser le travail de Thomas et de ses co-auteurs. Ils haïssaient les riches au lieu d'aimer les pauvres. Et donc, en économie ouverte, la question qui se pose, c'est de savoir... Est-ce qu'on a intérêt à garder les riches et à les imposer de manière à ce qu'ils soient, je dirais, indifférents entre rester à la maison et partir à l'étranger? Ou bien faut-il laisser partir ceux qui menacent de partir? Par exemple, les 30 000, non. Je ne dis pas que ce sont uniquement des raisons fiscales, mais enfin, il peut y avoir aussi des raisons fiscales. Et taxer à volonté ceux qui n'ont pas envie de partir. On a une réponse partielle avec Laurent Simula, donc économiste à l'université d'Uppsala, dans ce travail donc, universitaire. Est-ce qu'il faut garder les hauts revenus à la maison? Eh bien, on a une réponse qui est quand même une réponse assez intéressante, c'est que si les préférences sociales sont du type maximine, c'est-à-dire si vous vraiment vous intéressez aux gens les plus pauvres, Hein, c'est exactement le critère de Rawls. Eh bien, alors, c'est la première solution. C'est-à-dire, si vous aimez les pauvres, eh bien, il faut garder les riches chez soi et les taxer de manière à ce qu'ils soient juste indifférents entre rester chez soi et partir à l'étranger.
Monsieur, et donc, la question Trindois, je crois qu'il faut, attendez, il faut qu'on aille vraiment vite parce que c'est intéressant. Je voudrais qu'on aille dans le concret. Je pensais que vous alliez nous parler de l'impact de l'étude précise que vous aviez réalisée.
Voilà.
Après les grands principes,
j'y arrive. Et jusqu'où taxer les riches ? Jusqu'où taxer les riches ? Ça dépend de deux choses. Ça dépend des opportunités offertes par les pays voisins, c'est-à-dire les pays qui peuvent envers lesquels les différents contribuables aisés pourraient vouloir se relocaliser. Ça dépend également d'un autre paramètre qui est le coût généralisé de migration. Et donc, ce paramètre alpha dans le graphique que je vais montrer juste après, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? 20%, ça signifie que le revenu doit être supérieur de 20% dans le pays d'immigration à celui obtenu dans votre pays d'origine pour être indifférent dans les deux localisations. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent monétaire en pourcentage du revenu que vous avez dans votre pays, du blues, du fait que vous vous sentez quand même moins bien dans le pays étranger que chez vous. Et donc, on a une formule particulièrement simple, sous certaines hypothèses, qui calcule quel est le taux marginal maximum que l'on peut imposer au plus haut revenu dans une économie ouverte en fonction de ce paramètre. Donc ici, vous avez 0,2, 0,4, 0,6, c'est 20%. Donc, les 20%, 40%, 60%, 80%, donc c'est en fonction du coup de blues que vous avez à l'étranger, croissant. Et l'autre paramètre important, c'est le taux de taxation qu'il y a à l'étranger. Donc, c'est 0, 0,1, 10%, 20%, 40%, 30%, etc. Et vous voyez exactement, donc, avec cette carte, eh bien, quel est le taux maximum auquel vous pourriez taxer les plus riches de manière à ce qu'ils restent indifférents entre rester et partir, et donc qu'ils restent chez vous, et au-delà, ça veut dire que c'est juste le taux limite, après, ils partiraient. Donc, il me semble qu'en haut, vous avez les taux calculés par, justement, un des co-auteurs, Emmanuel Saez, en économie fermée. Alors, juste une dernière petite... est-ce que Emmanuel Saez, qui est en Californie, bénéficie à juste titre d'un revenu élevé, hein, sans doute dans le dernier 1%, etc. Qui est à Berkeley, est-ce qu'il va revenir avec ce barème? Donc je pense que c'est le type de question qui est quand même posée l'exercice de Thomas dans sa réforme. Il y a un choc fiscal de plus 15% en taux moyen sur les revenus les plus élevés. Est-ce que c'est soutenable? Est-ce que ces personnes vont l'accepter sans voter avec leurs pieds? Je pense qu'une question qui mérite d'être discutée.
Merci beaucoup. Bon, il nous reste une demi-heure. Je vous propose de poser des questions, d'aller un peu plus dans le concret avec nos interlocuteurs sur les réformes fiscales précises que l'on pourrait lancer. Et ensuite, rapidement, je donnerai la parole à la salle. Je me tourne vers Thomas Piketty. Je pense nécessaire de fouiller un point, une réforme qui est maintenant partagée par la droite et la gauche. C'est cette fameuse fusion impôt sur le revenu CSG. C'est quand même génial d'avoir mis tout le monde d'accord sur les principes. Mais on voit bien que derrière, il y a des choix idéologiques très différents. Est-ce que vous pouvez, préciser votre réforme? Et on demandera à M. Mariton de préciser la sienne.
Oui, je réponds quand même en une seconde à un point soulevé par Alain Tranois. La question posée par Alain est très simple, c'est est-ce que ça c'est réalisable ou pas, tout seul, en Europe, en France, ou est-ce qu'il faut que toute l'Europe se mette d'accord sur ce barème? Bon, c'est une vraie question. La réponse, c'est que là, on a proposé une réforme qui n'est pas parfaite, hein, qui n'est pas l'optimum rawlsien, justement parce qu'on est un pays seul. L'optimum rawlsien, d'après nos calculs, avec les élasticités qu'on a, qui sont les meilleures estimations qu'on a dans la littérature, on a pris les meilleures estimations de l'élasticité de l'offre de travail qu'on a. On a tous les trois pas mal travaillé sur la question, en particulier Camille et Emmanuel ont des élasticités récentes sur la mobilité des joueurs de football professionnel en Europe, hein, où ils ont construit une base sur toute la mobilité des 20 dernières années. Donc cette question de la mobilité internationale, on est un peu au courant quand même, hein, et elle nous intéresse. Enfin, je veux dire, donc on a mis les meilleures élasticités qu'on a dans la littérature, et la réponse, c'est que ceci est parfaitement réalisable, y compris en mettant tout en haut l'élasticité observée pour les joueurs de football professionnel, qui a priori un métier très très mobile. Donc, on a pris en compte ça, et cette réforme-là, qui n'est quand même pas un énorme saut en progressivité, hein, qui est simplement... Enfin, c'est quand même un peu ambigu dans tes commentaires, c'est que par moment tu dis ça c'est déjà trop, puis par moment tu dis c'est pas l'optimum rawlsien. Bon, oui, effectivement, non, c'est vrai, c'est pas l'optimum rawlsien. Si on avait un gouvernement européen qui pourrait mettre en place la fiscalité optimale, on choisirait quelque chose de plus progressif que ça. Et dans ce cas-là, le fait d'augmenter les taux d'imposition sur les revenus les plus élevés permettrait de réduire beaucoup plus fortement les taux d'imposition sur les pauvres que ce qu'on peut faire là. Ça, c'est un compromis qui, d'après nos analyses, est réalisable. Et en termes d'efficacité, a un effet qui est globalement assez nettement positif pour une raison très simple. Et j'en viens à la CSG, l'impôt sur le revenu. C'est que les hausses... Bon, il y a une partie de la population qui a des hausses de taux marginaux, une partie de la population beaucoup plus grande qui a des baisses de taux marginaux. Et en particulier, la population qui a les plus fortes baisses de taux marginal d'imposition dans notre réforme, ce sont les femmes. Enfin, les conjoints de façon générale, mais très souvent, les conjoints qui ont le revenu le plus bas sont les femmes. Et pourquoi les femmes sont très avantagées par notre réforme? Globalement, parce que comme on individualise entièrement l'impôt sur le revenu et la CSG, et c'est là qu'on a potentiellement un conflit assez fort avec M. Mariton, qui, si j'ai bien compris, veut familialiser la CSG. Donc là, toujours est-il que nous, dans la réforme qu'on propose, pour les femmes, actuellement, le système de quotient conjugal, dans lequel on additionne les revenus du couple et ensuite on les divise par deux pour les faire passer dans le barème, c'est un système qui, pour un couple parfaitement égalitaire, n'a aucun intérêt, ne procure aucune réduction d'impôt, puisque vous divisez par deux revenus égaux, donc ça ne change rien à une situation où vous seriez seul. Et par contre, pour un couple très inégalitaire, typiquement où l'homme travaille et la femme ne travaille pas, où l'homme travaille avec un salaire beaucoup plus élevé que la femme, là, la réduction d'impôt est importante. Et par construction, mathématiquement, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, plus le couple est inégalitaire, plus la réduction d'impôt est importante par rapport à un système où on n'a pas de quotient conjugal, ce qui est le cas dans à peu près tous les pays, sauf la France. Ce qui, en soi, n'est pas forcément un argument. On pourrait avoir inventé un meilleur système en France. Mais en l'occurrence, je pense que ce n'est pas un bon système. Car subventionner les couples inégaux, c'est quelque chose qui va à rebours de toutes les tendances, où on veut quand même encourager notamment le travail féminin, l'égalité professionnelle homme-femme. Et de ce point de vue-là, notre système, où en gros on étend le système de la CSG à l'impôt sur le revenu, puisqu'on passe à un système strictement individuel, on a un fort gain d'efficacité en termes d'offres de travail, notamment des femmes. Et comme dans toutes les estimations économétriques qu'on a dans la littérature, on nous donne des élasticités de la participation plus élevées que des élasticités intensives pour les gens qui ont déjà un travail. Vraiment, Alain, je ne sais pas, mais toutes les estimations qu'on peut prendre d'élasticité de la participation ou d'élasticité intensive suggèrent un bilan global de ce type de réforme positif en termes d'offre totale de travail. Donc, sur les questions d'efficacité, ne t'inquiète pas trop. Pour conclure sur les modalités de la réforme, je pense que, et pour répondre à ta question sur est-ce que finalement aujourd'hui on a un consensus sur CSG fusion, CSG impôt sur le revenu, évidemment, et on va le voir tout de suite avec M. Mariton, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'on fusionnait la CSG et l'impôt sur le revenu, il est urgent de rentrer dans les pseudo-détails, mais qui en fait ne sont pas des détails, de comment on fait. Et en gros, il y a deux façons de le faire. On part d'une situation où la CSG est un impôt individuel et l'impôt sur le revenu est calculé au niveau du foyer marié, et maintenant paxé, même s'il y a un débat sur le mariage et pax que M. Mariton visiblement veut ressusciter. À partir du moment où on veut fusionner ces deux objets-là, il faut choisir l'un ou l'autre. Donc moi, je choisis le système individuel qui est plutôt celui de la CSG actuellement. Si j'ai bien compris, M. Mariton choisit plutôt le modèle de l'impôt sur le revenu actuel qui est plutôt l'imposition familiale au niveau du foyer. Ça, c'est un vrai débat. C'est une vraie question de fond qui n'est pas une question technique. Hein. D'ailleurs, toutes les vraies questions fiscales sont des questions philosophiques, ne sont pas des questions techniques. Moi, je pense que l'individualisation est une dimension très forte d'émancipation. C'est-à-dire, je pense tout simplement que il faut que l'État et l'administration fiscale cessent de se mêler de qui vit avec qui paxe avec qui divorce avec qui, parce que on s'en sort pas, ça change tout le temps dans la vie, c'est comme ça. Et dans le fond, combien on fait payer d'impôt une personne qui passe de 1,5 SMIC à 1 SMIC complet, à 1 SMIC et demi à 2 SMIC, est-ce que ça doit dépendre de combien, de avec qui cette personne vit et de combien gagne cette personne vit? Moi, ça ne me paraît pas évident en termes de politique d'incitation justement au travail et de justice dans la politique fiscale. Ça ne me paraît pas être une bonne façon. La question des enfants, évidemment, doit être traitée très sérieusement à part, mais c'est différent de la question du quotient conjugal. C'est-à-dire, on peut très bien avoir une vigoureuse politique de soutien aux enfants, au financement de crèches, d'allocations familiales, sans pour autant avoir le quotient conjugal au niveau du couple. Donc on peut tout à fait traiter chaque individu dans le couple comme un individu. Et en un mot, la philosophie de notre réforme, c'est qu'il faut arrêter que les femmes soient traitées comme un revenu d'appoint qu'on rajoute sur le revenu du mari avant de diviser par le nombre de parts de quotient familial.
Le fan club féminin dans la salle. Donc, justement, on va écouter M. Mariton sur l'autre vision de cette réforme. Je rajoute une petite question sur le côté usine à gaz de cette réforme. Beaucoup de spécialistes m'ont dit que c'est très bien dans les principes. On n'imagine pas la complexité d'une fusion de nos deux systèmes. Donc là-dessus, quelle est votre philosophie?
Alors, je vais vous répondre, mais je commence par faire une observation à ce que disait Alain Tranois tout à l'heure, qui n'est pas du tout sur le sujet IRCSG, mais qui est sur le sujet des niches fiscales, et y compris sur les cours de Piketty. Il est exact que les très hauts et les très très hauts revenus savent mieux que d'autres utiliser les niches fiscales. Je fais simplement la respectueuse observation que pour déclencher ces niches fiscales et alors payer moins d'impôts, il y a en général un débours. Lequel débours n'est pas nécessairement un impôt, mais c'est une dépense et c'est un moindre revenu ou un moindre capital, y compris d'ailleurs parfois de sommes d'argent que l'on met et que l'on ne récupérera jamais s'agissant de la défiscalisation sur les niches outre-mer. Donc c'est tout de même juste au passage cette observation, c'est que le système n'est pas gagnant à 100. Enfin, on paye moins d'impôts, et ce que l'on met, ce n'est pas de l'impôt, mais c'est tout de même de l'argent, qu'on ne maîtrise pas complètement, voire même dans certains cas et pour certaines niches extrêmes, de l'argent que l'on met dans le système économique et que l'on ne récupérera jamais s'agissant d'une partie de l'argent mis sur l'investissement outre-mer.
Peut-être qu'il y a des niches complètement inefficaces à ce moment-là.
Non, mais je ne dis pas qu'elles sont inefficaces.
Si on investit dans quelque chose...
Non. Le système est construit de cette manière-là. Mais en même temps, je suis tout à fait d'accord sur la nécessaire évaluation des niches, enfin tout le travail qui est à faire là-dessus. Mais je dis simplement qu'en contrepartie de l'effet baisse de l'impôt sur le revenu, il faudrait, même si ça n'est pas exactement un prélèvement de la même nature, mais il y a un effet débours, qu'il y aurait une certaine cohérence à ajouter. Sur la fusion IRCSG, vous avez bien compris qu'il y a une différence fondamentale, qui est que Thomas Piketty est dans une vision individualiste et que je suis dans une vision familiale et foyer. Ce qui n'est en rien contraire à, me semble-t-il, aux droits de chacun et en particulier aux droits des femmes, et ce qui n'est en rien contraire aux politiques que l'on peut vouloir en termes d'amélioration des revenus des femmes. Le concept de couple inégal qu'évoque Piketty, c'est un concept où, au fond, la lutte salariale, enfin, je fais un peu exprès de forcer le trait, mais tout de même, plutôt que le sujet soit de savoir comment globalement faire en sorte que les rémunérations des femmes soient plus justes et meilleures et moins en décalage par rapport à celles des hommes telles qu'on les constate aujourd'hui, vous mettez la loupe sur les revenus à l'intérieur du couple et vous dites que l'inégalité est à l'intérieur du couple. La politique publique qu'on peut raisonnablement avoir, ce n'est pas le rapprochement des salaires à l'intérieur des couples. Je ne vois pas très bien quelle serait la politique publique dont le sujet serait de dire il faut que le mari et la femme, ou les deux pacsés, aient un revenu convergent. La politique publique, elle est d'évidence beaucoup plus macro que cela. Oui, mais c'est une vision de société. Je dirais, à un moment, le débat fiscal est fondamentalement un débat politique. Ma vision est... c'est plutôt la vision de la majorité, largement chez les parlementaires, c'est que la société n'est pas constituée uniquement d'individus. Et qu'une société d'individus, c'est une société, de mon point de vue, un peu triste, qui est une vision ultralibérale ou une vision, telle qu'on le voit dans le débat, clairement marquée pour certains à gauche, mais qui peut y avoir une autre vision qui est davantage celle du foyer en tant que le foyer est une représentation fiscale de la famille. Parce que, alors, c'est à la fois la doctrine sociale de l'Église pour ceux qui l'entendent de cette manière-là, mais c'est aussi une vision anthropologique raisonnable, considérer que la famille est un élément d'organisation important de la société et que plus elle est solide, mieux c'est, et que les choix fiscaux peuvent aussi traduire cela. Les constats disponibles montrent bien qu'il y a un lien entre la solidité de la famille et la réussite scolaire, les occurrences de délinquance et un certain nombre de... C'est une réalité. Vous pouvez réagir. Je suis désolé, c'est une réalité statistique. Plus l'enfant, c'est une réalité statistique documentée. Les références sont dans mon bouquin. C'est une réalité statistique que la stabilité d'une famille est un élément positif qui diminue les risques de délinquance s'agissant des enfants. C'est une réalité.
D'accord. Quel est le lien ? On se pose la question du lien avec la fiscalité.
Le lien avec la fiscalité, monsieur, est extrêmement clair. C'est que la fiscalité peut avoir, et en tout cas c'est le choix politique que je propose, comme vocation d'encourager la structure collective de proximité qui s'appelle une famille, avec une entrée foyer dans le calcul de l'impôt sur le revenu, et je le souhaite demain, de la CSG, et le dispositif qu'a voté sur ma proposition la Commission des finances hier, qui est de maintenir l'avantage fiscal du mariage dans l'idée du vœu, souvent incomplètement réussi, mais du vœu de stabilité qui va avec une union dont les termes légaux, si les mots ont un sens, sont bien différents de ceux du Pax. Si les mots ont un sens, un Pax est plus facile à défaire qu'un mariage. Ça, c'est une réalité objective. Donc je dis simplement, c'est une réalité objective. Il est plus facile de défaire un Pax que de divorcer. Je suis désolé, on peut être en désaccord sur un certain nombre de choses, mais il y a un certain nombre de réalités objectives.
D'accord.
Donc je dis simplement, la fusion IR-CSG, clairement, elle doit se faire dans l'esprit d'une familialisation en respectant l'entrée qui est celle du foyer fiscal et en effet en supprimant le quotient familial. Je reprends la présentation faite par les organisateurs qui, évoquant l'approche de Piketty, parlent de l'individualisation et de la suppression du quotient familial permettant que les femmes cessent enfin d'être traitées comme un revenu d'appoint. Je ne crois pas, on peut avoir une vision individualiste qui récuse le foyer. Mais je ne crois pas que le fait qu'existe un foyer permette de qualifier le revenu des femmes comme revenu d'appoint. J'évoquais tout à l'heure dans la voiture une proposition que les journalistes d'Elle avaient faite à Fillon dans une interview, puis cet échange n'a pas été publié. Mais la position des journalistes d'Elle, au nom d'une certaine vision féministe, c'était de dire l'émancipation de la femme exige que chaque membre du couple fasse soi-même sa déclaration d'impôt. Et qu'au fond, dans la déclaration et dans le calcul de l'impôt, l'un n'est rien à voir avec l'autre et que l'un n'est rien à devoir à l'autre. C'est tout simplement pas ma vision de la société.
Très bien. On va, l'heure tourne, on va... Vous avez aussi votre fan club, c'est
bien. J'ai tout le temps.
Est-ce qu'il y a des micros, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, l'heure attendait trop vite, pour les questions. Monsieur, au premier rang, au deuxième rang.
Oui, deux questions pour M. Piketty. Je crois comprendre que la réforme que vous proposez se fait à masse globale de prélèvements constantes, en valeur absolue. Hein. En revanche, il y a un transfert des, mettons, 4 à 5% les plus riches, puisque votre courbe se recoupe pas dans la classe des 10% hein, et non pas dans la classe des 1%, vers les autres, vers les 95% restants. Même si cette incidence est faible en termes de pourcentage, j'aimerais savoir ce que ça représente en valeur absolue, en milliards quoi, d'euros, et parce que ça peut avoir une incidence sur la structure de la consommation, voire même sur la balance extérieure, puisqu'il n'est pas certain que le contenu en importation soit le même pour des consommations de revenus plus faibles que pour des consommations de revenus très très élevées. Deuxième question, sans entrer dans les détails, puisque je voulais savoir surtout ce que vous indiquez, le genre de choses qui sont indiquées dans votre livre ou dans le site internet, hein, que j'irai voir bien sûr. On peut augmenter l'impôt sur le revenu pour les 1% les plus riches de plusieurs façons, soit en relevant des tranches, soit en supprimant des exonérations, par exemple des niches fiscales. J'aimerais savoir un peu ce que vous proposez comme principe, si vous voulez. Et j'en profite juste une petite seconde pour M. Mariton. On pourrait quand même imaginer que si les certains investissements dans les DOM-TOM n'échappaient pas au plafonnement des niches fiscales, l'argent ainsi récupéré puisse être pour tout ou partie réinvesti dans les DOM-TOM, si c'est nécessaire, mais pas forcément sous la forme, je ne sais pas, de port de plaisance pour accueillir les yachts des mêmes 1% les plus riches, par exemple.
Bien. Thomas Piketty, peut-être, est-ce que vous pouvez répondre à ces interpellations ?
Oui, pour répondre tout de suite, là, la réforme qui est proposée, en l'occurrence, et donc ne rapporte pas un milliard de plus, pas un euro de plus aux caisses de l'État, c'est complètement, par définition, c'est complètement équilibré. Bon, maintenant, on peut faire bouger... on prend en compte, oui, les effets de retour sur la consommation, les impôts sur la consommation en particulier sont réaffectés par ce transfert, qui est un transfert quand même de l'ordre de 2 points de revenu national, donc de l'ordre d'une trentaine de milliards. Alors on pourrait aussi choisir, c'est là que quand Alain disait tout à l'heure c'est petit comme transfert, bon, ça dépend de quel point de vue on se situe. C'est rare que des réformes fiscales bougent beaucoup plus comme ça que 2 points de revenu national, c'est quand même déjà c'est déjà beaucoup. Hein. Donc après, évidemment, si on veut des recettes supplémentaires, bon, on peut très bien bouger la courbe d'imposition pour les obtenir. Là, on présente un scénario de base très simple qui est équilibré. Maintenant, le but, c'est d'avoir justement aussi un outil qui permet de s'adapter aux besoins. C'est-à-dire, personne ne sait très bien quels seront les besoins des finances publiques en 2012, hein, pour résumer. Hein. Donc, on peut pas... Alors, comment on rétablit la progressivité ? C'est quand même principalement de la suppression de niches fiscales et des effets d'assiette. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici est très, très simple. On aligne complètement l'impôt sur le revenu sur l'assiette de la CSG. Ce qui permet, pour ce qui est des salaires et des pensions de retraite et des revenus d'activité non salariés, ça ne fait pas beaucoup de différence. On gagne un petit peu, mais ça ne fait pas beaucoup de différence. À peu près tous les salaires, les pensions de retraite sont imposés à la fois à la CSG et à l'impôt sur le revenu. Par contre, sur les revenus de patrimoine, en particulier les intérêts, les dividendes, les revenus fonciers, on a quand même des forts gains d'assiette liés au passage à l'assiette CSG. Et donc ça... avec un barème unique qui résulte de la fusion du barème impôt sur le revenu et CSG, permet en soi de rétablir... Le rétablissement de la progressivité vient beaucoup de là. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'un taux supérieur très, très élevé.
Et monsieur posait la question justement du nombre de milliards de niches supprimées. Alors justement, est-ce que vous pouvez remettre les idées en place ? Parce que sur vous avez en tête les montants de niches qui sont affichés. Le Parlement les a estimés à 75 milliards rien que sur les impôts. Il y a 60 milliards de niches sociales. Donc dans votre révolution, on supprime combien de niches ?
Oui, mais là, on se raconte quand même des histoires quand on fait ces additions de niches. C'est-à-dire on fait comme s'il y avait des trésors de 70, de 200 milliards qui suffisaient de les prendre. Et bon, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on additionne des choses... souvent qui n'ont rien à voir. Donc, il y a les réductions d'impôts au titre de l'impôt sur le revenu qui viennent après l'application du barème des taux d'imposition à 40%, c'est moins de 10 milliards, c'est 6-7 milliards, les réductions d'impôts. Donc, et si on arrive à toutes les supprimer, c'est déjà bien, ça permet de réduire les taux faciaux d'imposition. Et on ajoute, par exemple, des fois, dans certaines estimations des niches fiscales, on met le coût du quotient familial. Bon, c'est absurde.
Ça se fait plus depuis quelques années déjà.
Bah, dans certains documents qui sont repris dans la presse, on continue de mettre ça. C'est absurde parce que, par exemple, nous, quand on supprime le système du quotient familial, évidemment, on réutilise le même argent qui est obtenu en réduction d'impôts pour les personnes qui ont des enfants, avec un nouveau système de prise en compte des enfants, sous forme de réduction d'impôts forfaitaires par enfant, qui bénéficie également à chaque foyer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retirer, enfin d'un seul coup, de faire payer autant d'impôts quand vous avez 3 enfants à charge que 0 enfant à charge. C'est ridicule. Donc des fois, on compte des sommes comme ça dans les niches qui donnent une image, comme si c'était trop facile, d'une certaine façon... je prends un autre exemple, juste les baisses de charges sur les bas salaires. Je crois que très souvent, on se fait croire qu'il y a 25 milliards là qu'on va aller récupérer comme ça facilement. La vérité, c'est qu'aucun gouvernement ne va aller supprimer comme ça du jour au lendemain les baisses de charges sur les bas salaires, parce qu'aucun gouvernement n'a envie d'augmenter d'autant le coût du travail au niveau du SMIC. Donc nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est à nouveau, on propose également dans ce livre une réforme des cotisations sociales qui permette en gros de les étendre aux revenus de capital et des bénéfices qui permettent progressivement de supprimer cette trappe à bas salaire qu'on a créée avec les exonérations de charges à bas salaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui va rapporter de l'argent. En fait, même si vous voulez vraiment supprimer la trappe à bas salaire, ça va plutôt coûter de l'argent parce qu'il faut repousser les exonérations plus loin dans l'échelle des salaires. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met dans les niches sociales ou fiscales, comme des trésors cachés, qui en fait à supprimer vont parfois coûter plus d'argent. Donc il faut être précis.
D'accord. Monsieur Mariton, juste un point sur les niches. Alors pour aller plus loin que les dom-tom, moi je poserai la question de l'efficacité des mesures qui ont été prises. J'ai en tête la formule du rapporteur UMP du budget, Monsieur Carès, qui avait parlé d'un coup de rabot, mais qui avait parlé d'un coup de lime à ongles. Donc là, non, mais là-dessus, est-ce qu'il y a un début de réforme qui est lancé ou on est encore au tout début de...
Non, il y a bien une réforme, mais on constate par exemple que le plafonnement en valeur absolue plus une part en valeur relative qu'on a d'ailleurs diminué hier soir a peu d'effet, parce que d'abord il y a un certain nombre de niches qui sont en dehors de ce plafonnement et que d'autre part les revenus en question savent assez bien jouer à la fois avec les plafonnements et avec des phénomènes d'externalisation qui peuvent aider à. Donc il va falloir regarder, on ajoute cette année le rabot. Le rabot, lui, devrait faire davantage d'économies que le plafonnement général, valeur absolue plus une part du revenu, que nous avions décidé l'an dernier et que nous aggravons cette année. Mais il faudra évaluer ça de très près. Je rappelle tout de même au passage, je ne fais pas la défense illustration des niches, quelles qu'elles soient, l'évaluation est indispensable, il y a un consensus assez large qui se fait sur l'idée que les niches devraient toujours être créées à durée déterminée et tomber, sauf renouvellement explicite de la niche, mais que les niches fiscales, elles ont aussi... des fonctions et des objectifs de politique publique qui ne sont pas toujours indignes. Juste un mot sur le foyer au passage. J'y reviens. Et comment il faut l'inventer quand on ne le connaît pas. Vous savez que le gouvernement britannique, les conservateurs ont proposé, mais ils vont probablement revenir d'ailleurs sur cette idée, la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Au passage, le débat haut revenu, très haut revenu, les conservateurs proposaient la mise sous condition de ressources à 50 000 livres par an. Les Allemands sont sur une approche comparable à 500 000 euros. Les uns parlent de 50 000, les autres de 500 000. Simplement, les Anglais se sont rendus compte qu'en l'absence d'appréhension par foyer, lorsque une personne touche 51 000 livres, elle n'aurait pas, dans un foyer, mais le foyer n'existe pas, donc c'est une personne, s'il y en a une seule qui travaille, ça fait 51 000 livres, n'aurait pas les allocations familiales. Alors que si deux personnes dans le même foyer gagnent chacune 49 000 livres, alors elles auraient les allocations familiales. Et les Anglais sont en train de découvrir qu'il est important, dès lors qu'on parle de politique familiale, et quand on essaye d'avoir une réponse juste, d'inventer un truc qui s'appelle le foyer.
D'accord. On va changer de sujet, enfin j'espère peut-être. Une nouvelle question dans la salle, monsieur.
Bonjour à tous. Monsieur Piketty, vous venez de répondre à ma question à travers la réponse que vous avez faite au monsieur qui me précédait. Donc du coup, je fais juste les deux remarques qui précédaient ma question. La première remarque, c'est que je ne comprends pas trop pourquoi vous utilisez encore un cadre d'optimal rawlsien, puisque l'équité n'est qu'une niaiserie. Voilà. Ça, c'était la première. C'était par rapport à ce que disait monsieur Triennois. Et la deuxième remarque, c'était, je ne comprends pas, vous n'avez pas encore parlé de l'identité nationale. Donc la famille, tout ça, mais il vous reste encore un thème à aborder, monsieur. Voilà.
Bon, je vois pas le rapport pour la deuxième question. Pour la première, vous voulez répondre, Thomas Piketty ou...
Je ne sais pas, c'était pour moi la première, sur le cadre
de... Ouais, ou c'était peut-être une... Vous attendez une réponse, non, c'est pas la peine. On passe à la prochaine question, à la question monsieur au fond.
Oui, Alain Granger. Je voudrais savoir, Monsieur Piketty, dans votre estimation du taux global, est-ce que vous avez tenu compte de toutes les allocations ? Est-ce qu'elles font partie des revenus ? Ou est-ce qu'elles sont considérées à part ? Ce qui changerait beaucoup la forme de la courbe pour les très bas salaires, bien sûr. Et puis pour vous, Monsieur Tramoy, est-ce que vous pourriez me dire l'importance de l'ISF dans le fait que les gens veulent rester ou ne pas rester en France, sachant qu'on pourrait supprimer l'ISF et augmenter les revenus du capital de façon à avoir le même taux, disons, d'imposition.
Alors, tous les transferts monétaires sont pris en compte, toutes les allocations sont prises en compte. Je mentionne simplement que pour les personnes qui travaillent à plein temps, c'est vraiment lié aux enfants. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants... Un smicard à plein temps ne touche rien du tout. C'est-à-dire qu'on est déjà sorti du seuil des allocations logement, y compris en zone 1 parisienne, et on n'a pas de RSA, etc. Donc, alors la PPE est supprimée. Je dis, un des trucs absurdes de la PPE, c'est intégré dans tout ça. Le truc vraiment absurde de la PPE, c'est qu'on commence par prendre un mois de salaire.
Prime pour l'emploi.
La prime pour l'emploi. On commence par prendre un mois de salaire à tout le monde au titre de la CSG, contribution sociale généralisée, puis après on reverse un demi-mois de salaire au titre de la PPE. Bon, c'est un peu con quand même. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que tout ça est concaténé. Et donc, pour finir, tout le monde paye des impôts. Tout le monde paye de notre impôt sur le revenu dès le premier euro. Simplement, au lieu de commencer par faire payer un mois de salaire complet de CSG au SMIC et puis ensuite à donner un peu un reliquat de PPE pour compenser, on réduit le taux d'imposition par rapport aux 8% de CSG actuel au niveau du SMIC. Ça paraît quand même plus simple. Mais tous les transferts sont pris en compte. Alors, ce qui n'est pas pris en compte, par contre, c'est tous les transferts non monétaires, parce qu'il y a une grande partie des dépenses publiques, de ces impôts, qui financent non pas des transferts monétaires, mais des dépenses d'éducation. Qui en bénéficie? Est-ce que c'est plutôt les bas revenus, les hauts revenus, etc.? C'est une vraie question. Ce n'est pas toujours très progressif, les dépenses d'enseignement supérieur, d'éducation. Donc là, il y a toute une dimension à prendre en compte. Est-ce que ça rend l'ensemble plus progressif, plus régressif de prendre en compte complètement les dépenses? C'est une question ouverte, ça ne va pas de soi. Là, on se limite au monétaire.
Alors je rebondis sur la question de monsieur sur l'ISF, et je pense que on va faire un petit tour de table, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, sur quel est vraiment l'impact de l'ISF sur les délocalisations, et deux, quelle réforme de l'impôt sur le patrimoine? Justement, je redemanderai à Thomas Piketty de préciser sa pensée. Donc, commençons par monsieur Tranois et ensuite monsieur Mariton.
Oui. Donc, vous posez une bonne question sur l'ISF, parce que effectivement, une des motivations qui avait été avancée sur le bouclier fiscal, c'était en fait de susciter, pour faire court, un effet Johnny. Johnny paie ses impôts en Suisse, et c'était d'essayer de faire revenir un certain nombre de contribuables. Et les chiffres dont nous disposons, qui proviennent de l'administration fiscale, ne font pas état, alors évidemment c'est une mesure de 2007, donc on n'a pas énormément de recul, mais ne font pas état d'un retour, d'un effet Johnny, et donc le rythme des départs est resté à peu près le même, c'est-à-dire de l'ordre entre 600, 700, 800 départs par an, tels que la DGI les calcule. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure du fait que la France perdait une partie de sa main-d'œuvre qualifiée, ce n'était pas au contribuable de l'USF auquel je pensais en particulier, puisque là c'est plutôt une fuite, due à la mobilité du capital, je parlais plutôt d'un phénomène, qui a commencé à s'installer dans les années 90, sur le fait que là, un certain nombre de pays semblent plus attractifs. Et évidemment, on peut comprendre que la place de Londres attire les financiers, etc., etc. Mais ce qui est assez curieux, c'est que dans cette spécialisation, dans cette division internationale du travail, je dirais, des hautes qualifications, la France n'arrive pas à trouver, sa niche où elle pourrait attirer, du fait d'effets externes, des effets d'agglomération, des Américains, des Allemands, etc. Donc ça, c'est plutôt, inquiétant. Le fait, et on peut se demander effectivement à ce moment-là, si la fiscalité française, en général, joue un rôle dans le manque d'attractivité sur des métiers à haute qualification.
Monsieur Mariton, sur l'ISF,
qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux simplement dire que, d'abord, je ne suis pas a priori favorable à la suppression de l'ISF. En tout cas, je mets volontiers l'ISF au pot de la réforme de la fiscalité du patrimoine qui est à l'ordre du jour du début de l'année prochaine. Il me paraît important qu'il y ait une fiscalité du patrimoine, et j'étais très défavorable à l'amendement de mes petits camarades qui proposait la suppression de l'ISF du bouclier fiscal et l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Ça aboutissait à une baisse de la fiscalité du patrimoine, une augmentation de la fiscalité du revenu. C'est pas tout à fait le modèle de société que j'ai en tête. S'agissant de l'ISF ou de tout impôt du patrimoine, j'attire l'attention, et il me semble que le sujet est rentré dans le débat depuis quelques semaines, mais il ne l'était pas beaucoup avant, sur la question du taux. On parle beaucoup du principe de l'ISF, on parle beaucoup de sa base, est-ce qu'il faut mettre ou non la résidence principale, des trucs de ce genre, et on parle très peu du taux, alors même que le taux est resté sensiblement le même pour des revenus du capital qui, depuis la création de l'impôt sur les grandes fortunes et de l'impôt de solidarité sur la fortune, ont considérablement baissé. Donc pour moi, la question Je résume. Oui, il faut un impôt sur le patrimoine. Deux, il faut être très attentif à son taux qui doit avoir une relation raisonnable avec les rendements du capital.
Voilà, moi, un point commun avec Thomas Piketty qui veut lui aussi un impôt sur le patrimoine. Alors justement, en guise de conclusion, ce serait bien que vous nous parliez de ce chapitre-là, de votre livre, sur en 15 secondes. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on réforme d'un sujet ISF, droit de succession?
En un mot, quand même. Jamais les patrimoines se sont aussi bien portés en France qu'aujourd'hui. Et quand j'entends parler de fuite fiscale, je voudrais juste renvoyer ceux qui s'intéressent à cette question sérieusement. Un rapport du Crédit Suisse, grande institution gauchiste s'il en est, d'il y a deux semaines, donc il faisait un rapport sur le World Wealth Report, sur la richesse dans le monde, dans les différents pays européens, avec tous les patrimoines, la distribution. Et donc la France était le numéro un européen en termes de nombre de millionnaires en dollars, et le numéro 3 mondial, juste après les États-Unis et le Japon. C'est-à-dire que c'était le nombre de résidents français qui avaient le plus de millions en dollars de toute l'Europe, beaucoup plus que l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc les discours purement idéologiques sur les départs massifs de la France avec des chiffres où on regarde les départs, on ne regarde pas les retours, etc., etc., je pense que ça suffit. Si c'est une question sérieuse, il faut la traiter sérieusement. Il y a des données qui existent. À ce stade, ces données montrent que les patrimoines en France, et en particulier les plus hauts patrimoines, se portent merveilleusement bien. Il y a tout sauf une hémorragie de base fiscale. C'est pas pour dire qu'il faut tripler l'ISF, c'est pour dire que simplement, globalement, on a besoin dans ce pays d'avoir une fiscalité sur les revenus du travail plus faible et une fiscalité sur les patrimoines, en général les revenus du patrimoine, plus forte. L'ISF, globalement, est un impôt sur le patrimoine. On est d'accord avec M. Mariton sur le fait qu'il faut un impôt sur le patrimoine. Dans tous les pays du monde, il y a des impôts sur le patrimoine, souvent plus lourds qu'en France, à travers des taxes foncières très élevées, souvent beaucoup plus élevées qu'en France. L'impôt sur la fortune français est plutôt un peu plus malin, puisqu'il essaye de taxer toutes les formes de patrimoine en déduisant les dettes. Donc quelqu'un, par exemple, qui a un patrimoine immobilier mais qui est très endetté, ben, il ne va pas payer, alors qu'avec une taxe foncière, même si vous êtes très endetté, et ça arrive par ces temps de crise financière immobilière, vous payez le même impôt que quelqu'un qui l'est pas, ce qui est quand même un peu bête. Donc, comme forme d'imposition sur le patrimoine, c'est plutôt plus malin qu'une taxe foncière. Dire qu'il faut supprimer ça de toute urgence, ça n'a tout simplement aucun sens dans un pays où les patrimoines se portent très très bien et où les revenus, et en particulier les revenus du travail, stagnent depuis des années.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ce débat vous a intéressé. En tout cas, ça a été relativement animé. Voilà. Merci, au revoir.